Radio avec Benjamin Hu à la réalisation, Pierre Faucillon à la technique, Oriane Delacroix, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc à la programmation, Laura Dutèche-Pérez pour la préparation. Bonjour à tous. Musée, l'esprit de réouverture, malgré la contrainte sanitaire, des petits musées ont rouvert, d'autres s'apprêtent à rouvrir après une longue période d'exposition virtuelle. 2020 n'est pas un mauvais moment à passer, c'est un changement d'air pour Sophie Macariou, présidente du Musée national des arts asiatiques. Comment dès lors penser ce qui nous arrive? Toute cette semaine, nous donnons la parole aux artistes, aux directeurs de musées, aux collectionneurs ou aux galeristes. Et avec nous ce midi, Marie Lavandier, directrice du Louvre Lens, musée inauguré en 2012 et qui a eu la confirmation de sa réouverture pour le 3 juin. Et Nicolas Bourriaud, cofondateur du Palais de Tokyo, aujourd'hui directeur du MOCO, le nouveau centre d'art contemporain de Montpellier.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Marie Lavandier.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Bourriaud.
Bonjour.
Bonjour. Le MOCO à Montpellier, le nouveau centre d'art contemporain de Montpellier qui a été inauguré l'été dernier et qui rouvrira également, si tout va bien, ses portes le 3 juin. Vous devez être impatients tous les deux après cette période quand même très particulière que nous avons tous vécue, qui n'est peut-être pas terminée, période d'incertitude, période qui vous a poussé à devoir fermer les portes de vos musées. Marie Lavandier, qu'est-ce qu'il s'est passé pour le Louvre-Lens que vous représentez pendant ces deux mois, pendant le confinement?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on était en plein montage d'une exposition Soleil Noir, sur laquelle on a travaillé 3 années, qui était vraiment une exposition pensée pour le territoire, un hommage à la couleur noire et à cette terre de charbon dans laquelle s'inscrit le musée. Et il a fallu d'abord vivre ce montage dans des conditions très compliquées, puisque jour après jour, les différents pays fermaient leurs frontières ou les différents musées internationaux renonçaient aux prêts. Donc, il fallait réinventer l'exposition au fil du montage avant finalement de l'interrompre et de renoncer de facto à ouvrir l'exposition au public à la date prévue. Et puis ensuite, ça a été le musée confiné. Plus d'équipes sur place et très très vite une espèce de révolte qui est montée en nous, une révolte d'être privé du public en fait, être privé du public du musée avec l'invention de toutes sortes de dispositifs, blogs, podcasts, feuilletons avec la presse écrite parce qu'on a beaucoup pensé à tous les gens qui n'ont pas internet pendant cette période et donc je dois dire que le musée a réussi à vraiment rester vivant et rester en contact pendant cette période. Mais effectivement, on est très impatients de rouvrir au public et de pouvoir retrouver cette rencontre physique avec nos visiteurs, la rencontre physique aussi de nos visiteurs avec les œuvres qui sont finalement évidemment le fondement même de l'expérience muséale et ce qui fait le sens de notre travail et de ce lieu extraordinaire.
En un mot, dans quel état d'esprit vous vous apprêtez à rouvrir les portes du Louvre-Lens mercredi prochain?
Alors, je suis heureuse d'abord qu'on ait eu l'autorisation, parce qu'il a fallu monter un dossier précis, demander une autorisation préfectorale, avoir l'appui de la Direction régionale des affaires culturelles, l'avis du maire, enfin c'est un parcours du combattant. Il a fallu réinventer la circulation dans le musée, l'offre, les conditions de visite, etc. Donc je suis heureuse d'y être arrivée, je suis impatiente. Et puis, j'avoue que je suis très curieuse, en fait. Je suis très curieuse de voir qui revient, quand, comment, de comprendre aussi un petit peu mieux, même si on est resté en contact avec le public. On a, par exemple, on a appelé nos voisins pendant le confinement. Mais je pense que ça va être un moment où il va falloir vraiment être très à l'écoute, en fait, des visiteurs, quitte parfois à changer complètement l'approche qui était la nôtre et pour la réouverture et peut-être même dans le confinement.
Alors, initialement prévue le 25 mars, cette exposition Soleil Noir ouvrira au public le 10 juin. Elle sera prolongée, du coup, jusqu'au début de l'année prochaine, 2021. Et l'entrée au musée sera gratuite pour tous, si j'ai bien compris, aussi tout le mois de juin. Nicolas Bourriaud, de votre côté, comment ça se passe? Comment ça s'est passé au MOCO? On a évoqué avec Marie Lavandier l'invention de toutes ces nouvelles formes de la part des musées, des galeristes, des artistes aussi durant le confinement, le besoin de s'exprimer, de garder le contact avec ses publics. Le MOCO, à peine ouvert, l'été dernier déjà fermé. Comment vous avez fait pour maintenir, vous, ce lien? Par quoi êtes-vous passé? Par quel questionnement et par quelle forme pratique?
Je crois qu'on est tous passés à peu près par les mêmes étapes. Il se trouve que nous aussi, en fait, on a eu deux expositions qui ont fermé très peu de temps après avoir ouvert. En fait, l'une à la Panacée qui s'appelle Permafrost et qui traite précisément du...
Nicolas Bourriaud, on vous a à peine trouvé et déjà vous êtes reparti. On va essayer de remettre la connexion. Voilà. Nicolas Bourriaud, pardon, il y a eu une coupure, on n'a pas entendu. Est-ce que je peux vous demander de reprendre ?
Bien sûr, oui. Je disais, ça nous a obligé aussi à regarder plus attentivement la question de la programmation. Il se trouve que les deux expositions qu'on a dû interrompre à cause du confinement étaient toutes les deux, en fait, portaient toutes les deux finalement sur la période qu'on était en train de traverser. La première, c'était Permafrost à la Panacée qui traite de désastres écologiques. Et la seconde, Mécaro, qui est une exposition qui regroupe des artistes du bassin amazonien. Donc, on était carrément déjà, en fait, au cœur du problème, hein, d'une certaine manière. Ces deux expositions, on les a prolongées jusqu'en septembre, bien entendu. Et la question, ça a été, pendant ce temps, de faire vivre ces deux expositions. Donc, on a pratiqué à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire des podcasts, la mise en ligne de conférences, le maintien d'un lien, en fait, non seulement entre l'équipe, mais aussi avec le public, à travers de la médiation en ligne. Donc, on s'est tous retrouvés, finalement, confrontés aux mêmes choses. Et je pense que cette période de confinement va nous obliger aussi à vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de montrer et pourquoi et pour quel public.
Voilà, et c'est cette réflexion qu'on avait aussi envie d'ouvrir avec vous deux, Marie Lavandier, Nicolas Bourriaud, jusqu'à 12h30 autour de cette petite grande table. Je vous ai entendu dire, Nicolas Bourriaud, pas de parodie d'exposition durant ce confinement. Vous n'avez pas joué la carte de l'exposition virtuelle, mais vous avez choisi de développer une sorte de carnet de notes sur Instagram, une méditation collective à travers des témoignages d'artistes et de professionnels du monde de l'art. Dans le numéro de mai de Beaux-Arts Magazine, votre chronique, Nicolas Bourriaud, s'intitule « Pourquoi l'art nous manque ?» Pourquoi l'art est-il inséparable, en fait, de la notion de rencontre ? Pourquoi ne regarde-t-on pas une œuvre de la même manière sur un écran que dans un lieu d'exposition ? En quoi cette expérience, pour vous, est si différente ? Nicolas Bourriaud. On va vous retrouver. Même question pour vous, Marie Lavandier, si vous avez la gentillesse d'y répondre, parce que vous n'avez pas fermé au Louvre-Lens la porte au smartphone et aux tablettes, la porte d'entrée au musée par la visite virtuelle. Vous n'iriez pas jusqu'à dire, j'imagine que le virtuel et le contact physique avec les œuvres, c'est la même chose. Néanmoins, on peut imaginer une complémentarité entre les deux.
Alors oui, bien sûr, je pense que les deux sont complémentaires. Comme je vous le disais, pour moi, vraiment, l'expérience de rencontre quasiment physique, enfin pas quasiment physique, complètement physique, avec une œuvre issue du fond des temps, c'est quelque chose qui véritablement signe l'expérience du musée. Donc très clairement, ça c'est absolument pas substituable par des offres virtuelles, à mon sens. Je parle évidemment pas d'art numérique, qui est un tout autre sujet. Pour autant, j'ai trouvé pendant cette période, enfin moi c'est une période qui m'a fait beaucoup beaucoup évoluer, parce que la puissance de lien, encore une fois en restant conscient qu'énormément de gens n'ont pas accès à Internet, mais la puissance du lien que le monde numérique a permis de maintenir a été quand même quelque chose d'extrêmement important. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté même dans leur vie personnelle. Alors, c'est pas des expositions virtuelles qu'on a faites. Moi, ça, je n'y crois pas une minute. Par contre, effectivement, des podcasts un peu personnels, des commissaires devant, avec uniquement du son d'ailleurs, devant les œuvres de l'exposition Soleil Noir. Ça, c'est des choses qu'on a pu faire. Et puis, sinon, surtout, on a mis en place depuis quelques semaines un dispositif que j'ai trouvé assez formidable, à vrai dire, avec l'hôpital de Lens. On leur a demandé ce qu'on pouvait faire. Et ils nous ont dit ce que vous pouvez faire, c'est nous aider à lutter contre l'isolement des gens qui se retrouvent dans leur chambre d'hôpital, touchés ou pas d'ailleurs par le Covid-19, et qui n'ont plus aucun contact avec personne, et qui s'en trouvent d'autant plus mal.
Voilà, donc c'est l'art qui est allé à l'hôpital, et il y a eu des nouveaux sens de circulation qui ont été établis aussi pendant cette période de confinement. On a amené l'art auprès de publics qui n'y avaient pas accès jusqu'ici. Nicolas Bourriaud, de votre côté, sur cette expérience unique qui est quand même la visite au musée, ce lien qu'on peut tisser avec des œuvres et que le virtuel ne remplacera pas à vos yeux.
Ça, c'est très clair. Ce que la crise a montré, c'est l'importance de la présence physique devant les œuvres, de la rencontre directement avec les œuvres. Ça, c'est, je pense, la principale leçon, en fait, qu'on peut tirer.
Bon, alors là, vraiment, on va pas y arriver. Ah! Vous savez quoi, Nicolas Bourriaud? On va vous rappeler par téléphone. Le film est une méditation sur la famille et la place de l'art dans nos vies, l'heure d'été d'Olivier Assayas. Il a été rediffusé pendant le confinement sur Arte, après nous avoir bien fait saliver sur la belle maison et le beau jardin que cette famille occupe. Le film se termine sur la vente de la maison et le transfert donation de la collection privée de la mère décédée au musée d'Orsay. Marie et femme à l'écran, Charles Berling et Frédéric Raymond regardent avec nostalgie le changement de statut des œuvres, un bureau, des vases, de la maison aux vitrines du musée. Et vous allez voir, Marie Lavandier, Nicolas Bourriaud, ils interrogent dans ce film aussi la place de l'art dans nos vies.
Ça fait un drôle d'effet de le voir ici.
Ouais. Je sais pas trop quoi en penser.
Moi non plus.
Mais il est bien mis en valeur.
Ouais, il est bien mis en valeur. Tu trouves pas qu'on dirait qu'il est en captivité, là?
Non. Mais si le plus grand nombre peuvent en profiter.
Pourquoi ils en profitent? Ils passent devant, ils s'en foutent.
Pas du tout. Passe devant et regarde. C'est l'histoire, elle est à tout le monde.
Regarde, ces vases, se trouve qu'ils ont une histoire. Moi, je pense qu'ils prennent leur sens avec des fleurs, dans un salon. Si la lumière est vivante, sinon ils sont désenchantés, ils sont inanimés.
Tu dis n'importe quoi, on pourrait dire la même chose des tableaux, alors.
Bien sûr.
Voilà l'art qui vient à nous et nous qui allons à l'art. Nicolas Bourriaud, l'art a-t-il encore toute sa place dans les musées? Quelle place repenser après cette expérience?
Bah écoutez, je pensais à l'importance, une des principales leçons en fait de cette période de confinement, c'était de nous montrer à quel point la présence physique dans le lieu d'exposition est important. L'art, c'est pas un ensemble d'objets et on ne peut pas vraiment se satisfaire d'une visite virtuelle. C'est un espace dans lequel on est en état de rencontre, comme je dis souvent. Le lieu d'exposition, c'est un endroit qui nous met dans une configuration mentale très particulière. Et ce que la crise du Covid nous a montré, c'est que rien ne pourra remplacer cette expérience-là. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des formes effectivement nouvelles qui sont nées de ce confinement, qui vont certainement se développer par la suite. Mais ça va nous inciter à éditorialiser. J'ai vu beaucoup de musées en fait qui travaillent maintenant beaucoup plus sur leur intention de travailler sur leur collection permanente, qui essaie de focus sur des contenus davantage que sur des événements. Je pense que ça va nous inciter à un développement, à une réflexion sur le développement durable, pas économique, mais un développement durable culturel. Comment est-ce qu'on développe des spécificités? Comment est-ce qu'on intensifie sa relation à son territoire? Et d'ailleurs, on en réfléchit à la panacée, à une exposition sur le territoire qui, pour le moment, s'appelle 100 km. C'est la première fois, sans doute, que la préfecture inspire une exposition, mais en tout cas, c'est ce genre d'expérience qu'on a envie de mener aujourd'hui.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Repenser à la fois le lien au bassin, au territoire dans lequel les musées sont implantés, il est urgent de le faire, mais repenser aussi la forme des expositions. Hein. Les records de fréquentation ne seront peut-être plus à l'avenir le seul baromètre pour mesurer la qualité d'une proposition muséale. Ce changement d'échelle, il commence à être acté un peu partout. Marie Lavandier, l'idée d'en revenir à des plus petites expositions avec des œuvres qui vont peut-être aussi moins circuler.
Oui, alors c'est vrai que la période a été riche d'ailleurs en enseignements à ce niveau-là, y compris d'ailleurs au niveau du numérique qu'on évoquait. On est allé parfois vers des formes plus simples, presque artisanales, un retour de l'humain à la fois dans le dimensionnement des propositions, dans le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière ce qui était proposé, et puis effectivement dans le dans le volume, le nombre, l'ampleur des propositions. Alors on ne peut que penser qu'il va y avoir moins de monde dans les musées dans les mois qui viennent, puisque on est en train de l'organiser, hein. Rouvrir, ça veut dire accepter de baisser ses jauges, organiser une visite du musée, très paradoxal, puisque le jeu, c'est que les gens s'y rencontrent, s'y croisent, s'y rapproche le moins possible, alors que l'expérience du musée, c'est certes une expérience de rencontre avec l'œuvre d'art, mais derrière elle, c'est vraiment une expérience de rencontre humaine avec ceux qui ont créé ces œuvres, avec, encore une fois, ces messages, ces témoignages qui nous viennent d'antan ou d'aujourd'hui, d'ailleurs, et puis une rencontre aussi avec... avec des gens qui y travaillent, et en particulier, vous savez à quel point on est attaché au Louvre-Lens, à la question de la médiation humaine, de l'accompagnement humain. Donc oui, je pense qu'il va falloir inventer, non pas d'ailleurs tant inventer que profiter quelque part de cette période où on va pouvoir retrouver de l'intimité dans les musées, où on va pouvoir retrouver là encore dans les musées ce qui fait un petit peu le cœur de notre vie humaine, qui est une tension dynamique entre le se retrouver soi, et on en a besoin paradoxalement même après cette période de confinement, donc cette fréquentation intime de l'œuvre, et puis d'autre part la rencontre avec les autres, la rencontre aussi avec avec l'histoire, avec le passé. Le musée, c'est aussi un rendez-vous en fait qui nous permet de retrouver une place dans le monde. Et là encore, je crois que c'est vraiment une réponse à la question qui se pose aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, il va y avoir moins de monde dans les musées. Oui, bien sûr, assez probablement, il va être plus difficile de faire circuler les œuvres. Ça va nous impliquer de nous positionner sur d'autres types d'offres, sur d'autres types aussi de d'expositions. Moi, je crois beaucoup dans les expositions thématiques qui, dans ces contextes-là, sont peut-être plus confortables, en quelque sorte, à organiser, puisque là, vous n'avez pas votre exposition qui plante, en quelque sorte, sous prétexte que vous n'avez pas tel ou tel chef-d'œuvre de l'artiste dont vous présentez le travail, mais vous avez une possibilité d'argumenter, de mobiliser des œuvres de manière beaucoup plus originale, de mobiliser aussi des artistes. Ça, je crois que c'est un moment très important où les musées vont devoir vraiment ouvrir la porte aux artistes. Les artistes, ce n'est pas que des œuvres, c'est des gens dont on a la chance qui vivent aujourd'hui, qui peuvent nous aider à penser nos propositions, nos expositions, ce qu'on montre, la façon dont on pense, dont on vit dans les musées.
Et parmi les changements possibles aussi, peut-être un art collectif qui va être revalorisé, des projets d'artistes collectifs, mais peut-être plus anonymes, trop de grandes signatures, trop de grands noms, trop de démesures dans le prix des œuvres sur un certain marché de l'art. C'est aussi ce qu'on entend beaucoup revenir aujourd'hui. Ça aussi, il faudrait que ça change. On va écouter les mots d'un artiste d'hier, mais qu'on adore encore aujourd'hui. C'est Miro, au micro de Georges Charbonnier. En 1951.
Vous m'aviez dit, je crois, que l'œuvre d'art doit être anonyme parce qu'elle doit s'intégrer absolument au cadre.
Mais certainement, oui.
Dans
certainement.
Lequel on la place.
Mais certainement, oui. Comme par exemple une architecture doit être dictée par les paysages, par les montagnes qui l'entourent, par la mer, etc. Nullement on ne peut pas faire un plan architectural enfermé dans un bureau. Il faut que ce soit dicté par les rythmes des montagnes, par la lumière, par les ciels et par tout l'entourage. De même, pour faire une peinture murale, il faut que celle-ci soit dictée par l'architecture, par les plans, par les formes, par les volumes et par tout l'entourage, les paysages, les montagnes et tout cela. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait une fusion complète entre paysage, architecture et peintre. Donc c'est une chose tout à fait anonyme, impersonnelle. C'était d'ailleurs dans les grandes époques, les fresques romanes n'ont pas été signées par leurs auteurs, les pyramides d'Égypte non plus.
Voilà Nicolas Bourriaud, est-ce que comme l'évoque Miro, on a parlé de la place du musée dans la ville, est-ce qu'il va falloir aussi repenser peut-être la place de l'artiste dans le paysage?
Bien sûr, à Montpellier, la chance aussi d'avoir un peu anticipé sur un modèle de programmation qui correspond à de nouvelles circonstances. D'une part à la Panacée, un lieu en fait qui travaille essentiellement avec des jeunes artistes en fait qui insistent beaucoup sur la production locale en mettant en lien des artistes avec des producteurs locaux. À l'Hôtel des Collections, qui est un lieu uniquement dédié à l'exposition de collections privées ou publiques, on a un système avec un prêteur unique, ce qui à la fois limite les coûts et limite aussi l'empreinte carbone d'une exposition. Donc ce modèle-là, en fait, on l'a anticipé. Et ça correspond aussi, je pense, à la manière dont un centre d'art, dont une institution artistique peut s'inscrire dans son territoire et participer à un modèle de société également. Ce qu'on a vu avec la crise du Covid, c'est l'importance de ce qui échappe pour l'essentiel à l'économie, enfin en tout cas le modèle économique tel qu'on le valorise aujourd'hui. Tout ce qui est marginal s'est révélé absolument indispensable, du soin jusqu'à l'enseignement, aux relations humaines en général, tout ce qui est non monétisé. La culture fait partie, hélas, de ce secteur qui va vers le non monétisable, et c'est pour ça que c'est important de ne pas confondre la culture et le spectacle. Et ce qui va compter, c'est l'après. Quelle place pour la culture dans un projet de société qui j'espère, sera impacté par la crise qu'on est en train de vivre. Mmh. On est en train de programmer en fait les expositions de l'année prochaine. On a reporté quelques-unes, dont la collection Zinsou, qui est une collection africaine d'art contemporain, la plus importante en Afrique, qui aura lieu en mars prochain. C'est aussi un modèle d'inscription dans un territoire avec des projets éducatifs et pédagogiques très importants.
La collection Zinsou, donc, on verra prochainement. On va avoir besoin de se réparer et l'art est un moyen universel de le faire. Voilà ce que vous disiez, Marie Lavandier, cette question de la place de l'art dans ce monde d'après. On en parle avec vous, directrice du Louvre-Lens, Marie Lavandier, le Louvre-Lens qui rouvrira début juin avec l'exposition Soleil Noir. Et Nicolas Bourriaud, directeur du MOCO, le nouveau centre d'art contemporain de Montpellier, qui rouvrira également ses portes. Semaine prochaine, ce sera le 3 juin. France Culture, il est presque midi 22.
Entre parenthèses. En permission. En suspension.
En vase.
En papillon. Détention. En toi,
en elle,
en lui,
en nous.
En toi,
en elle,
en lui,
en nous,
envers
et contre tout.
En feu,
en froid,
en or,
en soi,
en tête.
En feu,
en froid.
En soi,
en tête,
en
conséquence de quoi?
En hommage, en l'honneur,
en sursis, en t'espérant,
en bas,
en haut,
en bien,
en rond.
Violon et duo de voix, celle de Miossec et de Mirabel, confinés près de Brest. Les deux musiciens finistériens chantent en comme ensemble et entre nous. C'est mélancolique, mais c'est bien doux. Le titre est disponible depuis vendredi sur toutes les plateformes. France Culture, midi 24.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Avec nos invités Marie Lavandier du Louvre-Lens et Nicolas Bourriaud du MOCO à Montpellier. 90% des musées du monde ont dû fermer leurs portes durant la crise. Plus de 85 000 établissements. C'est faramineux quand on pense à ce chiffre. Est-ce qu'on perçoit déjà, Marie Lavandier, les effets de la crise? Est-ce que vous dites aussi, comme votre consoeur du Musée National des Arts Asiatiques, Sophie Macariou, que 2020 n'est pas qu'un mauvais moment à passer, que c'est vraiment un changement d'air? Autrement dit, que cette crise n'est pas juste passagère et qu'elle est en train de modifier en profondeur, et on le voit déjà, notre rapport au monde de l'art, aux lieux d'art, aux artistes.
Alors oui, je pense que c'est effectivement un changement d'air, et c'est un moment qui va nous ramener vers des choses essentielles avec lesquelles parfois on a pris de la distance. L'art traditionnellement, c'était pas quelque chose d'aussi gratuit qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, au sens où il avait un rôle. Il avait un rôle de cohésion sociale, il avait un rôle magique, parfois pour guérir les corps, parfois pour guérir les âmes. Et je pense qu'on va retrouver un petit peu ce rôle assez direct finalement de l'art dans nos vies. Cet art guérisseur. L'art, c'est aussi un moyen pour les hommes de tout temps de parler de ce qui est au cœur de nos vies le plus intimement possible, la vie, la mort, l'amour, le sexe, le pouvoir. Ça parle de tout ça, l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment où on a besoin de reconnecter avec ce qui fait notre humanité. Donc oui, bien sûr, ça va être une période un petit peu différente. J'avoue, peut-être un petit peu moins pour le Louvre-Lens que pour les autres musées, parce que le Louvre-Lens, c'est vraiment un musée de crise. C'est un musée qui a été créé dans ce territoire marqué par la fermeture des mines. Territoire qui a été extrêmement marqué économiquement, socialement par cette traversée justement de l'ordre de la crise majeure, et donc du coup c'est un musée qui participe de la résilience, en fait, de la résilience de tout un territoire. Et moi j'avoue que pendant cette période où on a entendu au début, ça a été dur pour nous, hein, genre de musée, d'entendre que les musées ne faisaient pas partie des services essentiels en quelque sorte à la vie collective. Et moi, m'a habité pendant toute cette période ce qui a suscité l'arrivée du Louvre ici, le choix de ce site, qui a été 8000 messages, 8000 appels d'une population qui était plongée dans une crise économique inouïe, appel à l'art. Et cette espèce de pétition, c'est mieux qu'une pétition, a vraiment fait éclater à la face du monde de tous ceux qui pensaient que les gens, ils auraient préféré un gros chèque pour un hôpital, une nouvelle usine, etc., qu'un geste culturel majeur dans cette période. Et bien que si, bien sûr, les habitants, dans cette situation profonde, disaient, mais notre survie, elle va dépendre aussi de la capacité à voir de l'art en vrai. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est une obligation du Louvre-Lens. Si vous voulez, on parlait du lieu, on parlait du territoire, Nicolas Bourriaud en parlait, et c'était tout à fait passionnant. Un établissement culturel, il est jamais n'importe où, même s'il présente des œuvres universelles, celle en l'occurrence pour nous de la collection du musée du Louvre. On n'est pas n'importe où, on est presque quelque part chez quelqu'un, et ce quelqu'un, il faut qu'on s'y intéresse, qu'on pense sur lui, qu'on analyse les besoins qui vont être les siens aujourd'hui, qui clairement, sous Louis Macario a raison, ne seront pas les mêmes, et réengager cette espèce de danse, parce qu'un musée, c'est pas un truc qui est posé avec les gens qui viennent, c'est une relation, c'est une danse, c'est un champ commun, il y a l'espace public qu'on partage, nous on a ce parc, on a cette friche minière, on a de l'espace naturel aussi, qui raconte d'ailleurs cette histoire de résilience. Et donc oui, ça va bien être un moment où il va falloir inventer une autre manière de danser ensemble.
Alors on ira danser avec vous dans vos musées, jardins et lieux rouverts tout bientôt. Ce sera début juin pour le Louvre-Lens, comme pour le MoCo à Montpellier et d'autres musées, pas simplement parisiens, loin de là, un peu partout en France. Je vous laisse retrouver dans la proximité, là où vous êtes, faire le point avec vos musées, ceux que vous avez envie de fréquenter à nouveau, voir quand sont leurs dates de rouverture et si elle est permise. À noter aussi, juste à travers le hashtag FLV chez vous, les mises en ligne depuis le début du confinement d'ailleurs par la Fondation Louis Vuitton, de nombreuses expositions virtuelles, de cartes blanches adressées aux artistes. Aujourd'hui, mercredi 27 mai, c'est Gilbert et Georges, ce duo d'artistes britanniques et londoniens qu'on avait reçu dans les matins de France Culture, qui vous parle de leur conception de l'homme. France Culture, il est midi et demi. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'édition Interchaîne. Elle est présentée par Bruno Divic. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture et vous dis à demain.